Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, j'ai repris mes voyages sur le continent africain 3 ans après mon congé sabbatique. Je me retrouve aujourd'hui à Kigali et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Hugues Gabriel, je suis professeur de médecine à la faculté de médecine de Berne. Et aujourd'hui, mon invité est le professeur Léon Moutessa. Bonjour.
Bonjour.
J'espère que tu vas bien. Merci de m'accueillir ici dans ton hôpital.
Merci beaucoup, ça fait plaisir.
Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter un peu quel était ton parcours et tes fonctions actuelles?
D'accord. Donc, mon nom c'est Léon Moutessa, je suis médecin avec un doctorat en génétique humaine, sciences médicales. Actuellement, je travaille à l'Université du Rwanda comme professeur de génétique humaine et aussi je travaille dans les hôpitaux, différents hôpitaux, Université du Rwanda où je vois les patients. Concernant mon parcours, donc j'ai fini les études de médecine à l'Université nationale du Rwanda en 2003 et puis j'ai continué avec un doctorat à l'Université de Liège en Belgique où j'ai complété aussi mon post-doctorat.
Tu es né au Rwanda, j'ai lu 2-3 choses sur toi et en fait, comment est-ce que cette motivation de devenir médecin, est-ce qu'il y avait des modèles autour de toi, dans ta famille, quelles avaient été tes ambitions?
Ah, ça c'est vraiment une très bonne question en fait qui mérite plus ou moins de détailler un peu les éléments de réponse. Oui, premièrement, il y avait un médecin, mon père était médecin, donc il est décédé pendant le génocide, mais c'était un modèle, mais je ne voulais pas faire comme lui parce que lui, il avait fait tout ce qui était chirurgie. J'avais commencé un petit peu quand j'ai terminé pour la chirurgie, mais je n'ai pas beaucoup aimé. Je voulais faire quelque chose qui n'était pas connu. Donc, comment c'est né l'idée de faire la génétique? Longtemps, je peux revenir longtemps quand j'étais petit. Dans ma famille, en étant petit, j'avais la passion de toucher à tout. J'avais une passion en fait qui concernait l'élevage. J'avais l'élevage des lapins. Et à l'époque, j'avais commencé avec 5 lapins. Donc, c'est une histoire vraiment importante à savoir. J'avais commencé avec 5 lapins. Au bout de 3 mois, je me retrouvais avec 80 lapins. Je n'ai pas pu comprendre parce que ça se reproduit beaucoup, si vous avez cette passion. Ça se reproduit beaucoup. C'est un animal qui est sympa, qui est gentil. Et donc, c'était ma passion. Sauf que je n'avais pas vu, dans mes 80 lapins, au bout de 3 mois, il y avait beaucoup de malformés. Il y avait qui avaient des malformations congénitales avec des membres qui manquaient, des albinismes, des albinos. C'est qu'il y avait une ségrégation, la loi de ségrégation que je ne maîtrisais pas. Du coup, il y a eu beaucoup de consanguinité dans mes lapins, ce qui a expliqué en fait le fait que mes lapins, il y avait beaucoup qui naissaient avec des malformations et d'ailleurs qui mouraient aussi avec des malformations sévères. Donc, ce qu'il fallait faire à l'époque, c'était d'identifier les mâles et les enlever directement pour qu'il n'y ait pas cette consanguinité. Ça, j'ai compris quand j'ai commencé à avoir le cours de génétique à la faculté de médecine. Avec le professeur Lucien Coulucher, le défunt Lucien Coulucher, qui fut le premier qui venait au Rwanda après le génocide. Le premier cours, je brûlais jamais. Quand j'ai entendu parler de la génétique, les éléments fondamentaux de la génétique, j'ai dit voilà ce que je dois faire. Avec le professeur Lucien Coulucher, on a fait un projet. Et je n'avais pas encore terminé la médecine, donc j'ai rédigé un projet avec lui pour faire co-créer un centre de génétique plus tard au Rwanda, mais aussi pour faire former des médecins en génétique. La première chose à faire, c'était de former. Donc, je suis parti directement dans ce centre en Belgique. pour commencer les études de génétique, que j'ai terminé en 2009, et officiellement en 2019 mon PhD et puis mon postdoc en 2010. Et je suis revenu au Rwanda pour commencer et créer le centre, le vrai centre de génétique humaine que je dirige actuellement.
Et parmi toutes ces étapes, là, maintenant, il y a une chose que tu aimerais évoquer, pour laquelle tu étais particulièrement fier ces dernières années, que tu as réussi à accomplir ici, probablement.
Effectivement. D'abord, je suis fier d'avoir réalisé un projet en tant que jeune qui a abouti à cette formation. Mais aussi, d'avoir continué cette passion pour former les autres. J'étais le premier, puis j'ai pu former un autre, Annette Winez, qui est devenue aussi généticienne. La deuxième chose, c'est que dans ma carrière actuelle et passée, je dirais qu'il y a eu au moins trois projets dont je suis vraiment fier. La première, c'est que quand je suis rentré, il fallait commencer à zéro, to start from scratch. Et ce n'est qu'au bout de 5 ans après avoir essayé que j'ai eu mon premier projet NIH en 2014, dont je suis vraiment fier. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir d'autres. Donc ces projets, pourquoi je suis fier? Parce que ça m'a permis de construire non seulement la génétique à partir de zéro, le centre de génétique, mais aussi former. Deuxièmement, il y a un projet dont je suis vraiment tellement fier, c'est un projet qui concerne l'épigénétique, donc de l'épigénétique pour voir la transmission de stress post-traumatique, PTSD, et le trauma pour les personnes survivantes du génocide. Donc j'ai commencé cette idée avec un professeur qui était à l'université de Genève, professeur Félicien Carreguet, qui lui travaillait dans le labo fondamental, en disant, j'ai une idée. Chaque année, pendant la commémoration, je vois les jeunes qui sont à l'école, qui sont nés en 1994, qui n'étaient pas exposés directement, mais qui font des symptômes post-traumatiques comme la dépression, l'anxiété, les hallucinations, les flashbacks. Tout ça, ça m'interpellait beaucoup. Je me disais, il doit y avoir quelque chose qui est transmis. Et à l'époque, ce n'était pas un sujet déjà connu. Parce que même quand on regardait dans les holocaustes, les survivants de l'Holocauste, il y avait un professeur Yehuda, Rachel Yehuda, qui avait beaucoup publié là-dessus, mais il n'y avait pas une évidence scientifique qui prouvait qu'il y avait un effet épigénétique transmis en intergénérationnel. Alors on a commencé à fouiller, on a fait la collecte d'échantillons chez des femmes qui étaient enceintes, avec les enfants qui étaient exposés, et d'autres femmes qui étaient à l'extérieur du pays, qui n'étaient pas directement exposées, comme groupe contrôle. Et on a trouvé, pour la première fois, parce que les éléments qui étaient déjà disponibles, c'était chez le modèle animal, chez les souris, avec un stress post-traumatique, on pouvait avoir des effets des gènes en fait, qui étaient méthylés, des éléments de méthylation. Des zones de méthylation, les îlots CPG avec plusieurs méthylations. Chez l'homme, c'était la première fois. C'était la première fois qu'on pouvait déjà tester. Alors, on a testé, on a trouvé chez des gènes, on a focalisé sur des gènes et on a trouvé des mutations. Avec lui, on va continuer ce projet pour créer la discipline au Rwanda. Donc là, je suis vraiment fier. Et c'est un projet qui continue. Parce qu'on va s'intéresser à la génération qui va venir, donc les enfants qui sont nés, des enfants nés pendant le génocide. Et maintenant, à part ça, il y a d'autres projets. Donc, le projet qui était particulièrement mon projet de thèse, c'était surtout la mycoviscidose chez les Africains, chez les patients africains, les Rwandais. Et à l'époque, justement, le sujet n'était pas connu. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que les patients rwandais, à l'époque que j'ai sélectionné, c'était des patients qui avaient la malnutrition sévère et chez qui on ne pouvait pas avoir l'amélioration malgré le traitement, malgré la réhabilitation nutritionnaire. Et du coup, on a sélectionné une cohorte de ces patients et j'ai fait la recherche des mutations dans le gène connu CFTR. J'ai trouvé peu de mutations. Et à l'époque aussi, il y avait un autre gène ENaC qui était déjà publié comme étant un gène modificateur. J'ai cherché dans ce gène et on a trouvé. Et on a pu avoir des éléments d'éclaircissement, même si on sait qu'il y a encore des zones qu'il faut déjà éclaircir pour savoir vraiment les effets modificateurs ou bien s'il y a des gens en interaction qui pourraient expliquer les symptômes chez les Africains. D'autant plus qu'on sait que la plupart des mutations classiques sont trouvées chez les Caucasiens.
Je voulais peut-être parler des obstacles, des défis. Tu as déjà mentionné deux, trois choses.
Mais oui.
Comment est-ce que tu verrais à présent les défis, notamment peut-être les défis qui sont liés au fait que le Rwanda a ses contraintes, a ses difficultés encore?
Ok. So, les défis, c'est surtout lié au manque de personnel compétent. Vous voyez, j'ai mentionné, il nous a fallu au moins 10 ans pour pouvoir avoir les gènes. Ce n'est que maintenant. Donc, j'ai formé un autre qui est arrivé après, Annette. Et puis, on a eu encore un gap. Ce n'est que maintenant qu'on voit qu'on commence déjà à combler le vide. Ça, c'est parmi les obstacles. Deuxième obstacle, c'est les fonds. J'ai expliqué. Encore maintenant, le gouvernement, l'hôpital ne s'assied pas pour dire voilà, on met le fonds pour la recherche, pour la génétique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut chercher avec les moyens de bord que j'ai expliqué. Ça, c'est un défi important aussi. Il y a d'autres défis qu'on continue à relever, c'est que nos patients, par exemple, on trouve ceux qui ont des problèmes cardiaques, par exemple, congénitaux. Des anomalies congénitales comme celle-là, la plupart, on ne les prend pas en priorité pour les opérer. Donc, on est dans un combat pour voir comment on pourrait déjà considérer, ne pas les discriminer, pour qu'ils soient aussi considérés. Par exemple, je donne le cas de trisomie 21. Donc, là, on commence déjà à avoir un changement. Et après avoir fait plusieurs bruits donc, pour faire changer les choses ici.
Ma dernière question peut-être à ce sujet-là. Donc, ce qu'on voit naturellement dans des pays de l'Afrique subsaharienne, c'est que les populations sont extrêmement jeunes,
oui,
de manière générale, et démographiquement, le Rwanda c'est peut-être encore particulier dans ce sens-là, de vue de l'histoire. Et si on parle de formation, naturellement à différents stades de formation, et puis après l'intérêt que j'ai personnellement c'est pour les formations au niveau académique, comment est-ce qu'on arrive à faire à ce qu'on forme suffisamment de médecins, d'informaticiens, d'ingénieurs dans un pays comme le Rwanda? Quels seraient pour toi les éléments importants que tu pourrais évoquer ici?
Vous faites bien de mentionner le Rwanda. Ça, c'est l'endroit où il faut être pour faire ça. Parce que ça motive. Donc, je peux donner un exemple concret pour adresser ce problème. Avec un collègue en Belgique, on a développé un projet, monté un projet ensemble pour créer un master et un PhD en biotechnologie, le programme. Donc, pour moi, pour dire que un pays comme le Rwanda, c'est un pays où il faut réaliser ce genre de projet, parce que non seulement ça motive, mais aussi c'est l'idéal pour la plupart des pays africains de voir les modèles, un petit pays comme celui-là, mais avec beaucoup de grandes idées et des choses qui sont réalisables. En revenant un peu sur ce projet, on voit même d'autres scientifiques africains qui commencent à s'inscrire dans ce programme qui va continuer. Donc voilà, ça c'est une fierté. Une autre fierté, c'est que pendant le Covid, que je reviens encore, c'est qu'on a formé rapidement, il y a eu un médecin vraiment impressionnant qui était très brillant, un jeune médecin qui a commencé à travailler en génétique chez moi dans tout ce qui est cancer, génomique des cancers. Et il a changé, il a shifté directement sur le COVID parce que c'était le combat, c'était le besoin réel. Et il a fait plusieurs travaux, tellement qu'on a changé ce sujet, on lui a demandé s'il pouvait continuer comme sujet de thèse. En moins de 2 ans, il a publié des beaux papiers dans des bonnes revues, Nature Communication et Nature, qu'on a publié ensemble, et puis Science. Et il a pu présenter sa thèse en moins de 2 ans, ce qui était, ça méritait un prix à l'Université de Liège et à l'Université du Rwanda. Quand il a fini, il a été nommé ministre. C'est notre ministre d'État maintenant au ministère de la Santé. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on peut réaliser des choses, non seulement pour former les scientifiques, mais aussi pour former des futurs politiciens qui vont aider dans le domaine. Voilà.
On va rester sur cette note extrêmement positive. Merci Léo pour avoir partagé tout ce parcours, tous ces succès. Et puis, je crois qu'il y a encore pas mal de projets qui sont en route.
Absolument, oui. Absolument. Merci beaucoup.
Merci. Je vous remercie toutes et tous pour nous avoir écoutés ici. On va poursuivre très certainement ces voyages et ces podcasts dans l'Afrique francophone. Et je vous demande de rester avec nous. À bientôt, à toutes et à tous.
Merci.